Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, les chroniques de l'été.
Le monde d'après, on a beaucoup utilisé cette expression au moment de la crise sanitaire. Quels sont les gagnants et les perdants de ce nouveau monde? C'est le débat de ce mercredi avec Emmanuel Le Chypre, Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose. Bonjour Nicolas.
Bonjour et bienvenue autour des 10 marqueurs du monde d'après. Marqueur numéro 7, les gagnants et les perdants du monde d'après. Alors j'ose une question provocatrice. Est-ce que dans tout ça, l'Europe peut tirer son épingle du jeu? Tiens, je ne vais pas commencer pour une fois. C'est toujours moi qui commence, qui mouille en premier. Qui veut commencer sur les gagnants et les perdants du monde d'après? Ça peut être par secteur, ça peut être par pays, même par grande tendance. Emmanuel Le Chypre.
Bah, on voit bien. Alors ce qui est intéressant, je trouve, dans les deux crises qu'on vient de traverser, c'est que un peu comme pour la démographie, d'habitude quand les grandes crises sont mondiales, elles ont tendance à frapper à peu près uniformément tous les pays, tous les secteurs et même toutes les catégories sociales, même si effectivement pour les moins favorisés, c'est toujours beaucoup plus dur que pour les... Là, on a quand même une crise partie de la crise sanitaire qui a des effets extrêmement contrastés sur les grands secteurs. Quand vous regardez par exemple, c'est assez amusant, l'évolution des cours de bourse des 20 grands secteurs de l'économie mondiale. Si vous regardez par exemple après la crise financière de 2008, ils sont tous en baisse. Si vous regardez là après les 6 premiers mois de crise sanitaire, vous en avez 4 ou 5 qui sont en très forte hausse, 4 ou 5 qui sont en très forte baisse et une dizaine qui sont un peu entre deux autres. Donc c'est bien qu'il y a des grands secteurs gagnants qui sont la pharmacie, la technologie et puis des grands secteurs perdants qui sont le transport, l'hôtellerie, etc., le tourisme.
Et ça c'était Covid et là maintenant il y a
ça c'est Covid. Alors effectivement, et après quand on regarde aujourd'hui que vous mettez tout ça bout à bout et que vous regardez les grands gagnants et les grands perdants. Moi, je vois deux grands gagnants qui sont quand même, un, d'abord, la Chine, deux, les États-Unis, parce que, notamment, les États-Unis, en étant, autosuffisants en énergie, bah, finalement, ils sont même exportateurs nets, ils sont grands gagnants de la flambée des prix, et que ceux qui sont vraiment en difficulté au milieu, ce sont les Européens. Et après ça, il y a des grands perdants qui sont effectivement la Russie, bien évidemment, qui va sans doute
disparaître
de l'économie mondiale. Alors,
c'est
en
très
Europe,
frappant, ça,
effectivement,
l'Allemagne.
Bien sûr,
c'est très frappant,
bien sûr, et effectivement, la zone la plus en difficulté. Quand vous regardez à la fois ces difficultés sectorielles, c'est-à-dire qu'honnêtement, sur le plan technologique, il n'y a eu aucun rattrapage européen. Donc c'est toujours les États-Unis, la Chine et l'Europe, quasiment rien au milieu. Et puis, qui est le plus frappé effectivement par la guerre en Ukraine? Bah parce que c'est son sol, c'est l'Europe. Parce qu'on est dépendant de l'énergie du reste du monde, c'est l'Europe. Et que le pays, effectivement, qui est vrai, peut-être... économiquement, à défaut d'être financièrement l'homme malade de l'Europe, c'est quand même l'Allemagne aujourd'hui.
Ouais, parce qu'en fait, tous les leviers qui ont fait la réussite de l'Allemagne...
Ouais, sur le plan sectoriel, voilà, etc., c'est compliqué.
Les matières premières étaient fabriquées en Europe occidentale, enfin en Europe orientale plutôt, et ensuite étaient assemblées en Allemagne, oui, sauf qu'il y a pas mal de ces pays qui aujourd'hui sont un peu dominés par des régimes politiques relativement durs. L'Asie, elle est devenue le premier client. Ben, avoir comme premier client la Chine aujourd'hui, c'est parfois compliqué. On allait faire baisser les coûts de l'énergie en renonçant au nucléaire, en achetant du pétrole pas cher aux Russes. Et voilà que tous ces éléments-là sont en train de se retourner contre le modèle allemand. Moi, je rajouterais des tendances quand même, pas dans les gagnants du monde d'après. Le télétravail sera quand même quelque chose, à mon avis, vraiment durable. Et je pense que la transition verte aussi fera partie des tendances qui vont s'imposer. Et également les comportements RSE. C'est-à-dire c'est cette recherche de proximité, cette recherche de circuits courts, cette recherche d'éco-responsabilité. À mon avis, ce sont des éléments qui vont être plutôt ressortir gagnants. Tandis que dans les perdants, il y a le pouvoir d'achat, qui à mon avis sera quand même l'un des grands perdants du monde d'après. Il y a les jeunes. Vous savez, l'histoire de les convulsions de l'inquiétude, la léthargie de l'ennui ou les convulsions de l'inquiétude que vous avez exhumées de Candide, de Voltaire, pour eux, c'est les convulsions de l'inquiétude qui les attendent. Et puis, les États qui vont être plombés par des charges de dette monstrueuses. Qu'est-ce que vous metteriez dans notre...
Ça les sortira de la civilisation pyjama un peu aussi.
Oui, hein. C'est ça, voilà. Ouais. Non, Jean-Marc, dans les gagnants-perdants de ce monde d'après.
Vous avez abordé les choses de façon de...
Très désordonnée.
Différente, c'est-à-dire, Emmanuel a parlé des pays, ou plutôt des secteurs, des modes d'organisation. Non, en termes de pays, je pense que un des grands perdants, c'est la Chine. La Chine est en déficit de sa balance des paiements courants. La Chine est de plus en plus montrée du doigt sur ce qui s'est passé autour de la pandémie. Il y a de plus en plus de gens qui l'accusent d'avoir été à l'origine plus ou moins
de... Comme on n'aura jamais de vérité.
Oui, on ne saura jamais. Et on s'aperçoit qu'elle est en train de perdre tout un tas de marchés au profit du Vietnam. Et c'est un pays qui, en plus, est en le lieu en ce moment d'affrontements assez sévères entre différents clans. On l'a vu d'ailleurs avec le confinement de Shanghai, qui était un confinement qui était voulu depuis Pékin et auquel s'était opposé le Premier ministre qui était de la région de Shanghai. Donc je crois que c'est un pays qui a mangé...
Sur l'énergie, Jean-Marc, ce qui se passe en Russie est quand même une très bonne affaire pour l'approvisionnement énergétique des Chinois.
Oui, mais enfin, ce bénéficie aux Russes. Les Chinois, ils achètent quand même le pétrole des Russes à un prix qui est relativement élevé. Et alors, effectivement, justement, le pétrole est en train de redistribuer les cartes, et on le voit dans la redistribution des balances des paiements courants. Les pays qui dégagent maintenant des excédents de balances des paiements courants, c'est clairement les pays pétroliers. Ouais. On parlait dans une précédente chronique de l'Arabie Saoudite, qui est le pays où la croissance va être la plus forte, et on s'aperçoit que les pays qui avaient traditionnellement des excédents comme le Japon et l'Allemagne sont désormais pratiquement à l'équilibre de leur balance des paiements courants et ils vivent beaucoup sur la rémunération des excédents qu'ils ont acquis précédemment. Donc il y a à mon avis un déport de l'épargne, des revenus vers les pays producteurs de pétrole et vers les pays producteurs d'énergie. Et ça, je pense que tout le monde est perdant, parce que ce sont des pays, quand on regarde leur classement dans les pays les plus innovants, qui sont les moins bien placés. Je prends assez souvent la comparaison entre la Suède et la Norvège. La Suède est le deuxième ou le troisième pays le plus innovant au monde suivant les classements, et la Norvège est le 20e. Alors que ce sont deux pays qui ont la même tradition historique. Et donc je crois que le gros problème, c'est que les gagnants, c'est les rentiers, et donc les perdants, ça va être les entrepreneurs.
On parlait de l'Europe, on s'est pas étendu sur l'Europe. J'attends de voir ce qui va se passer pour l'automobile européenne, dans les secteurs qui risquent de perdre...
12 millions d'emplois, l'automobile européenne. Hein, et quand on regarde les pays qui se sont le plus opposés à la date de 2035 comme passage à la... C'était l'Italie, la Roumanie et la Slovaquie qui sont les trois lieux privilégiés de production automobile en ce moment.
Prochain marqueur du monde d'après, dette, qui va payer ?
BFM Business, les chroniques de l'été.